Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations grâce à Samzati Masanzi.
À la une de l'actualité, une accalmie s'observe ce soir à Goma au Nord Kivu après une psychose généralisée qui a régné dans la ville depuis le matin à la suite d'intenses combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23 autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la province. Parmi les conséquences de ces affrontements, la ville de Goma est inondée de personnes déplacées. Présentation ce jeudi à la presse de Lubumbashi des présumés bandits qui auraient tué à coups de machette le journaliste Patrick Adonis Numbi dans la nuit du 7 janvier dernier à Lubumbashi. Profitant de cette occasion, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, appelle la population à collaborer avec la police afin de dénicher tous les malfrats qui insécurisent la région. L'invité de la rédaction ce soir est Samuel Yagase, membre du conseil d'administration de l'ONG Climat Justice Résilience Found. Il revient sur un atelier qu'il a animé il y a peu à Kindu, dans la province du Maniema, sur la force du livre dans le monde contemporain. À toutes et à tous, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu où un calme relatif est observé en début de soirée dans les quartiers ouest de la ville de Goma, quand bien même les habitants continuent à se déplacer pour se mettre à l'abri. Des ambulances ont sillonné la ville toute la journée pour transporter les blessés civils et militaires vers les hôpitaux. Des véhicules militaires, des taxis, bus et motos transportant les habitants et leurs effets ménagers sont des scènes qui ont marqué cette journée. Pour rappel, une panique s'est emparée de la population de Goma depuis tôt ce jeudi. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore communiqué sur la situation à Sake. Cependant, plusieurs sources, notamment la population en fuite, affirment que la cité de Sake serait infiltrée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il s'observe de nombreux mouvements de population se déplaçant vers Goma. Face justement à cette intensification des combats ce jeudi dans les environs de Sake, de nombreux déplacés, comme venons de le dire, prennent la direction de Goma, viennent justement à s'ajouter à ceux qui ont fui les combats hier dans la zone d'Enzulo. Ces arrivées créent également la panique parmi les habitants des sites autour de Goma. Léopold Mouissa de la société civile de Kamuronza dans le territoire de Masisi nous décrit la situation dans cet extrait sélectionné par Chris Mukand.
Il y a des populations qui sont éparpillées sur la route Sake-Goma, ne sachant pas dans quel sens se diriger. C'est vraiment un spectacle désolant et nous demandons au gouvernement de prendre vite des initiatives pour récupérer les zones déjà conquises. Mais aussi, il faudrait que des équipes soient dirigées sur terrain pour encadrer tous ces déplacés qui ne savent pas où aller. Mais aussi, au niveau de Kinshasa, il faudrait qu'on dépêche le chef d'état-major général qu'il puisse venir palper des doigts la situation que nous sommes en train de traverser. Parce que il y a une école qui pense que peut-être que la communication sur cette guerre est différente. Et donc il y a une compréhension au niveau ici de l'Est et une autre compréhension au niveau de Kinshasa. Parce qu'on ne comprend pas vraiment comment les gens peuvent continuer à souffrir jusqu'à ce niveau et que des mesures ou des décisions sérieuses ne soient prises pour mettre fin à cette situation. C'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant.
Avec cette marée humaine des déplacés qui continuent d'inonder les rues de Goma dans sa partie ouest, la ville se transforme en grand camp de personnes déplacées, alertent les acteurs sociaux. Ces personnes déplacées arrivent en masse fuyant les nouveaux combats dans leur village. Tout comme certains sites déplacés de Mugunga se vident progressivement depuis ce matin. Leur arrivée crée une psychose généralisée à Goma. C'est ce que nous dit Denise Loukesson.
Cet afflux est observé dans les quartiers Lac Vert, Mugunga et Ndosho. Ces nouveaux déplacés proviennent d'Enzulo, Sake, Mubambiro et d'autres localités du territoire de Kalehe au sud Kivu. Ils s'ajoutent à de nombreux autres qui sont dans des sites déjà aussi saturés. Les présidents des camps de Boulengo affirment que certaines de ces personnes ont passé la nuit à la Belle Étoile faute d'abri disponible dans des camps. Alors que le site d'Enzulo s'est vidé totalement de tous ces déplacés depuis le début de cette semaine, les occupants d'autres sites tels que Lushagala, Boulengo, 8e Sepak, dans les quartiers Mugunga, quittent préventivement leur site pour se mettre à l'abri. Ils arrivent à Goma dans des familles d'accueil. Plusieurs acteurs déplorent qu'aucune disposition ne soit prise par les autorités provinciales pour accueillir ces compatriotes qui sont en détresse. Ils appellent les autorités à activer en toute urgence les plans de contingence humanitaire pour venir en aide à tous ces déplacés.
Le problème aujourd'hui, il faut maintenant imaginer comment accueillir ces gens, comment les orienter. Il n'y a pas ces plans-là de contingence. Il humanitaire. Ce pays n'est pas passé aux élections en 2023 pour assister au désastre qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, si tous ces gens-là sont abandonnés, alors pour quelles raisons aujourd'hui on va encore dire qu'on a des autorités qui sont là pour travailler pour l'intérêt du peuple?
La société civile urbaine de Goma, elle, appelle la population à la solidarité tout en restant vigilante. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Ces mouvements de population touchent également la province voisine du Sud Kivu. Nous apprenons que Calais Centre, chef-lieu du territoire du même nom, est débordé par le nombre de déplacés qui viennent en masse de la partie nord depuis l'occupation de certaines agglomérations par les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Aux 600 000 déplacés internes qui fuyaient massif vers Calais auparavant, s'y ajoutent plusieurs autres fuyant les zones sous contrôle des rebelles au Sud Kivu. La plupart s'y dirigent à Calais Centre et d'autres encore vont en ordre dispersé dans différentes directions. Jean Kassami nous décrit les conditions d'accueil de ces déplacés.
Calais Centre est suffoqué par le surnombre de déplacés internes qui ne cesse d'accroître au jour le jour. Leurs conditions de vie laissent à désirer, renseigne le président de la société civile, Dimilier Kassole Ngonyozi.
Il y a beaucoup de déplacés dans presque tous les villages de Calais littoral qui sont venus de Minova, de Nyabibwe, de Kalungu, de Butiro et consorts.
L'administrateur assistant du territoire de Calais confirme le débordement de l'autorité locale. Archimède Karebwa sollicite l'appui des humanitaires.
La situation elle est chaotique. Parce qu'il n'y a pas accès humanitaire. Nous sommes en train de connaître, n'est-ce pas, un afflux de déplacés fuyant les combats dans les hauts plateaux et qui prennent la direction de la route nationale numéro 2, c'est-à-dire côté Nyabibwe, Calais Centre. Nous sommes en train d'appeler les gouvernements et les intervenants humanitaires de faire en toute urgence, c'est-à-dire l'assistance en vivre et non vivre, l'assistance médicale et l'assistance psychosociale.
Le mouvement se poursuit suite à l'incertitude qui plane sur l'axe Calais Centre Minova. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Vous le savez, c'est depuis quelques jours que les FARDC et leurs alliés les Wazalendo se battent contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda pour le contrôle de la cité de Sake, au nord Kivu. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, chef-lieu de la province, cette cité rêvait d'une importance stratégique sur plusieurs plans. N'est-ce pas, Marcel Papimukeba?
La cité de Sake est bien plus qu'un carrefour. Elle constitue un point stratégique reliant Goma à Masisi ou à Likale et le vaste territoire riche en ressources minières de l'ouest du nord Kivu. Sake est également un verrou géographique essentiel pour le contrôle des mouvements dans cette région marquée par des tensions sécuritaires récurrentes. Sa position sur la route nationale numéro D en fait un axe incontournable pour les forces armées et les acteurs humanitaires opérant dans les zones conflit. Au plan sécuritaire et militaire, Sake occupe une place centrale dans les opérations militaires. Elle est l'un des verrous importants pour protéger la ville de Goma. Contrôler Sake, c'est garantir une emprise sur les routes stratégiques menant aux zones enclavées tout en limitant les mouvements vers ou en provenance de Goma et d'autres localités clés. Au plan économique, les produits agricoles et les minéraux transitent par Sake avant d'atteindre les grands centres de consommation. Ainsi, Sake reste un symbole de la complexité des enjeux du Nord Kivu où géographie, sécurité et géopolitique s'entremêlent. Goma, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci à vous Martial Papimukeba. Face à la situation sécuritaire qui prévaut à Sake et dans les environs de Goma, le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO rassure quant à la collaboration entre les FARDC, la MONUSCO et la force de la SADC, Samir RDC, pour protéger les civils et défendre la ville de Goma ainsi que la cité de Sake face aux attaques des Belgium 23. Le général Kardiouf précise qu'à cet instant, les trois forces veillent à ce que le point clé soit sécurisé. On l'écoute.
La situation sécuritaire au niveau de Goma et de Sake est dense, mais sous contrôle. Comme vous le savez, depuis ce matin, il y a eu une poussée de l'ennemi du côté de Mubambiro. Et nous, avec l'ensemble des moyens disponibles sur le terrain, nous avons activé l'opération Springbok, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais bien de quelques mois avant. Les mesures prises, c'est des mesures prises en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, à côté d'un Samy Darcy, de faire face à toutes les éventualités. Nous sommes dans une collaboration aussi bien dans la planification, dans la conduite des opérations que, si vous voulez, dans le suivi des opérations. Aujourd'hui, une situation particulière à Saké et aux environs de Goma est en cours. Nous avons renforcé cette collaboration pour s'assurer que les points clés sont tenus et pour assurer la défense de Saké et de Goma. La priorité, c'est la protection des populations. C'est sur quoi nous nous attelons depuis ce matin et nous ne lâcherons rien.
Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu appelle la population de Goma et des environs au calme et à la mobilisation pour soutenir les FARDC. Julien Paluku a lancé cet appel aujourd'hui après une panique observée dans la ville de Goma due à l'intensification des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par les Rwandais pour le contrôle, bien entendu, de la cité de Saké. D'après lui, la République s'organise pour bouter l'ennemi hors du territoire. Julien Paluku.
J'ai fait cet appel pour appeler à la solidarité de toute la population envers les forces armées. Parce que des moments comme ceci, on les a traversés. La population de Goma se rappellera que le 29 octobre 2008, nous avons connu la même situation. La population se rappellera également que le 20 novembre 2012, nous avons connu la même situation. Eh bien, la République n'a jamais capitulé. Je voudrais donc appeler tout le monde à la cohésion. Ne cédez pas au discours de division. Mobilisons-nous comme c'était à l'époque, qui avec son carton de biscuits, qui avec sa bouteille d'eau, qui avec sa boîte de sardines, pour que nous puissions soutenir nos forces armées afin de bouter dehors l'ennemi. La République ne pleurniche pas, la République s'organise et ce qui est en train d'être fait maintenant. La population donc est appelée à soutenir son armée parce que c'est la seule armée que nous avons. Nous n'aurons pas une autre armée si ce n'est celle-là qui défend l'intégrité du territoire.
Le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO ainsi que l'ancien gouverneur du Nord Kivu s'exprimait au micro de Martial Papi Mukeba. Comme annoncé au sommaire, une lueur d'espoir se pointe à l'horizon pour connaître les circonstances de la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi. Ce dernier a été tué à Lubumbashi à coups de machette il y a plus de deux semaines par des inconnus. La police a présenté ce jeudi à la presse des présumés bandits qui seraient impliqués dans ce drame. L'événement s'est déroulé au gouvernorat des provinces en présence de nombreux journalistes de Lubumbashi. Le gouverneur Jacques Kiabula a une fois de plus demandé à la population de collaborer avec la police pour dénoncer les malfrats qui sèment la terreur dans la ville. Jean Gandou.
Ces présumés bandits sont répartis en deux groupes. Le premier est constitué de 7 jeunes et 3 femmes. C'est parmi eux qu'on retrouve ceux qui sont accusés d'avoir tué le journaliste Patrick Adonis Numbi dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier. D'après la police, ces gens ont été dénoncés par un homme arrêté et conduit à la prison de la Kasapa pour s'être introduit dans une résidence où il a volé de l'argent et le téléphone du propriétaire de la maison qui l'a par la suite blessé à l'aide d'une machette. Les faits se sont passés un jour après la mort de Patrick Adonis Numbi et c'est en retraçant ce téléphone qu'il a été capturé. Interrogé, il a cité les membres de sa bande. La police les a retrouvés dans un hôtel de la commune de Katuba. Ils ont reconnu avoir participé à la mort de Patrick Adonis Numbi. Leur chef de file et certains de leurs amis sont en cavale. Parmi les 3 femmes présentées, il y a la compagne du leader de la bande. Les 2 autres sont accusés de fournir les machettes aux criminels et de les accueillir dans leur maison avant qu'ils n'aillent opérer. Satisfait de ce joli coup de filet, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a rassuré les journalistes.
Nous voudrions surtout pour honorer la mémoire d'Adonis, que ces criminels soient jugés en flagrance et que l'audience soit médiatisée.
Le deuxième groupe est constitué d'un militaire et d'une femme qui ont été retrouvés aussi dans le même hôtel avec de biens volés la nuit dernière. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, ici à Kinshasa, la capitale, des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière au quartier Molende et Bikinda, dans la commune de Selimbao, à la frontière avec celle de Ngaliema. Des échanges de tirs ont eu lieu entre la police et des bandits armés. Ces derniers ont attaqué au moins 4 parcelles, dont une boulangerie. Une femme a été violée, de l'argent et des objets de valeur emportés. Autre précision avec Mathias Womumu, bourgmestre de Selimbao, joint par Babel Mpongo et Nancy Tambo.
Il y a eu incursion de personnes armées non entièrement identifiées dans le quartier Molende sur l'avenue Louvemba et l'avenue Kingusi. Pas de blessés, pas de pertes à vie humaine, mais ils ont violé une dame, ils ont emporté l'argent et beaucoup d'objets de valeur. Et dans le quartier Bikinda sur l'avenue Boma, ils étaient nombreux, ils sont enterrés dans une boulangerie. Il y a eu échange de tirs, ils ont pris fuite. Sur l'avenue Boma, c'est pour la deuxième fois cette boulangerie, au mois de décembre, ils zone enterrée. On a renforcé la police dans les deux quartiers. À question dans Saya, on violait la vigilance de la police pour aller opérer. À partir de 14h, on a une réunion de conseil de sécurité pour renforcer nos stratégies sur le terrain pour que la population soit un peu calme. Nous demandons seulement à la population de collaborer avec nos services. Quand vous voyez une personne suspecte, priez d'informer les services pour que nous identifions la personne là, pour que nous mettons fin aux actes barbares comme ça.
Notez que des cas pareils sont aussi signalés ces derniers jours au quartier Mbandaka dans la commune de Bumbu, entre les avenues Landou et Révolution, direction Matapol. Le dernier cas a eu lieu le mardi.
Actualité internationale.
Au Gabon, le gouvernement a fixé au 12 avril prochain la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Le scrutin aura donc lieu dans moins de 3 mois. Le pays s'apprête à tenir cette importante échéance qui permettra d'élire le futur président de la République qui dirigera le pays durant les 7 prochaines années avec la possibilité de renouveler son mandat une seule fois selon la nouvelle constitution.
L'invité.
C'est Samuel Yagassé, il est membre du conseil d'administration du CJRF Climat Justice Résilience Fund. En séjour au Maniema, ce dernier a animé un atelier à l'université de Kindu la semaine dernière portant sur la force du livre dans le monde contemporain. On prépare à ces assises les étudiants, les chercheurs, juniors et seniors de l'ancien et nouveau système LMD. Ceci en prélude de l'ouverture à l'université de Kindu d'une bibliothèque moderne. Samuel Yagassé s'entretient à Kindu avec Florence Kizalonga.
Monsieur Samuel Yagassé, bonjour.
Bonjour.
La force du livre dans le monde contemporain, c'est quoi cette force?
Bien, madame, j'aimerais d'abord remercier l'université de Kindu et particulièrement le professeur Casimir Ngombi qui a eu l'idée d'organiser ce séminaire, cet atelier. Je crois que les livres, de manière incontestable, les livres c'est comme un générateur. C'est un générateur de connaissances, c'est un générateur d'énergie. Les livres élèvent la personne, les livres vous amènent vraiment très haut. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, les livres, il est incontournable. On doit vivre avec de la naissance jusqu'à la mort.
En vous entendant parler, c'est comme si les livres est enterré dans le pays. C'est que les gens ne lisent plus.
Oui, c'est vrai. Je crois que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui lisent au Congo. Il y en a qui lisent, mais je crois qu'il faut seulement regarder. Il faut aller voir ce que nos universités, nos écoles ont comme bibliothèque pour vous rendre compte que bon, les livres est en train un tout petit peu de disparaître. Un peu partout, vous allez dans des bibliothèques, ce sont des vieilleries. Et ça ne peut pas aider notre génération à être hautement compétitif par rapport à d'autres jeunes des autres pays.
Et pourquoi est-ce que vous mettez l'accent beaucoup plus sur le livre physique pendant qu'il y a de bibliothèques virtuelles?
Ben, vous savez, le livre physique, il est incontournable. Il va rester incontournable. J'entends des jeunes gens ou même beaucoup d'autres personnes dire vanter Google, voyez. D'abord, ces informations-là qu'on reçoit dans Google, ce sont des informations qui sont filtrées, qui sont contrôlées, qui sont gérées, voyez. Alors qu'un livre physique dépend de l'auteur qui décide peut-être de dénoncer une situation ou de décrire un problème à sa manière et de manière indépendante. C'est ça la différence.
Vous faites la promotion du livre, il faut lire, mais dans des universités, bien sûr, il existe des bibliothèques, mais des bibliothèques qui n'ont pas de livres. Est-ce que ça a des sens?
Il faut commencer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint trop. Et donc, le problème est là. Nos universités, globalement, n'ont pas de livres, n'ont pas de livres de qualité, n'ont pas de livres qui soient vraiment à la pointe de l'information. Vous passez partout. Ce que j'ai dit, c'est, je l'ai expérimenté. Je suis passé par Kinshasa, j'étais à Lubumbashi, Kisangani et tout. Pour la plupart des cas, ce sont des vieilleries. Ça, le fait est là. Il faut corriger. Il faut aller de l'avant. C'est plus qu'important parce que ça pourra même aussi réduire. Vous savez, quand on compte, par exemple, les 50, les 60 meilleures universités d'Afrique, il n'y a aucune université congolaise dans la série-là. Nous, comme un grand pays, je n'accepte pas cette gifle.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour élever ces défis?
Vous savez, madame, j'aimerais quand même fixer ça, une vérité. Les livres, ce n'est pas l'apanage de l'université. Les livres, c'est tout le monde qui en a besoin. Si vous allez sous d'autres cieux, les grandes librairies, vous les trouvez dans des mairies, dans des gouvernorats, dans des institutions de l'État. Je vous informe, j'en profite pour vous dire que la plus grande bibliothèque du monde n'appartient pas à une université. Ce n'est même pas à l'université de Harvard, qui est la première université du monde, qu'on trouve cette librairie. Library of Congress, c'est la plus grande librairie du monde qu'on trouve au niveau du Congrès américain. Vous voyez, c'est une institution étatique qui détient la plus grande librairie du monde. Donc, je crois qu'il faut corriger cette idée selon laquelle, quand on parle de la bibliothèque, quand on parle des livres, c'est seulement à l'université. Non, je crois que nos médecins, nos juristes, un peu partout, c'est tout le monde qui a besoin des livres. Il n'y a pas que le professeur d'université ou l'étudiant.
Je vous comprends bien, il faut un apport des autorités politico-administratives.
Ça c'est vraiment incontournable. J'ai aimé que le gouverneur de la province du Maniema ait envoyé son ministre de la culture. Oui, il était là et j'ai aimé son apport. Et nous n'avons pas manqué de lui adresser nos vœux en lui demandant en tout cas de pouvoir être notre interprète auprès de l'autorité provinciale pour soutenir l'université de Dekindo.
Messieurs et Samuel Yagassé, vous découragez les jeunes à beaucoup plus se donner dans des Google et à beaucoup lire. Pour que ces jeunes arrivent à le faire, quel conseil vous leur donnez?
Je l'ai dit aux jeunes de l'université de Kindu, il faut lire. Il faut beaucoup lire. Ces jeunes ont besoin de connaissances pour relever les vrais défis de la République démocratique du Congo. On ne lit pas parce qu'on veut accéder à un titre ou à un grade ou quelque chose. Ça, parce qu'après, il n'y aura plus rien, quoi. Ça va être les ténèbres. Vous défendez votre thèse, après vous ne lisez plus. 5-10 ans après, qu'est-ce que vous devenez? Il n'y a que les titres que vous avez, mais dans la tête, il n'y a plus grand-chose. Et c'est ça qu'il faut éviter. Les jeunes doivent, en tout cas, aimer devenir l'ami du livre jusqu'à leur mort.
Monsieur Samuel Yagassé, je vous remercie.
Madame, c'est à moi de vous remercier.
Notre invité est interrogé par Florence Kizalunga. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga et supervisé par Alain Rung. Polydor Basunga était à la mise en onde. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci.